Bonjour à tous, ça va bien ?
Oui, c'est bien. Alors, pour ceux qui demandent des nouvelles, parce qu'il y en a quand même pas mal qui demandent des nouvelles, et c'est un petit peu embêtant d'écrire à chaque fois les détails, donc je vous les donne par la prédication, là, en début. Je vais mieux, je vais très mieux. Vous savez que j'ai été opéré il y a 10 semaines maintenant, hein, chérie ? 10 semaines du talon d'Achille. Le chirurgien de Toulouse m'a pris le tendon du gros orteil et puis il l'a mis à la place du talon d'Achille. Et il m'a dit, avant même que j'y parle du Seigneur, il m'a dit, vous savez, Dieu savait très bien faire les choses. Quand il les a faites, il a pensé qu'il viendra un temps où il y aurait des chirurgiens capables de faire ça. Et voilà, j'en suis là. Je trouve ça formidable, hein. On est en train de devenir des amis, on se parle, et c'est vraiment un homme formidable, très gentil, et puis surtout très efficace. Alors, mon pied bouge bien, la cicatrisation se fait très bien, je suis comment on appelle ça, 2 fois par semaine, je suis le kiné, il me fait faire des exercices que je réussis bien, sauf la descente des escaliers. Là, j'ai encore un peu de peine à descendre les escaliers. C'est plus la trouille qu'autre chose, hein. Je suis un trouillard. Vous saviez pas que j'étais un trouillard? Non, c'est pas vrai, mais disons que c'est impressionnant. J'ai toujours un peu peur que ça lâche, mais le chirurgien m'a dit ça ne peut pas lâcher. C'est soudé, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est y aller mollo. C'est tout. Donc voilà, je vous remercie pour toutes vos prières et je loue le Seigneur pour son œuvre dans mon corps, mais aussi je remercie le corps médical, tout ce qu'ils ont fait, c'est vraiment génial, je suis très content. Alors évidemment, j'ai beaucoup plus de temps, puisque je suis bloqué un peu chez moi, pour regarder des vidéos que normalement je ne regarderais pas. J'ai eu le temps de visionner beaucoup de vidéos sur le net. Évidemment, étant donné que notre site est beaucoup regardé en Afrique, vous savez que c'est en Afrique surtout que les gens viennent pour écouter les prédications. C'est étonnant, hein? Et ça fait plaisir. Que Dieu vous bénisse. Par contre, il y a beaucoup de pasteurs, entre guillemets, de prophètes, entre guillemets, bref, de gourous, qui m'envoient leurs prêches en pensant que je vais les publier. C'est pas possible. Il y a une chose qui m'énerve, c'est d'entendre les attaques théologiques étroites qui considèrent que les femmes sont responsables de la chute de l'humanité. Est-ce que ces machos lisent leur Bible ? Moi, je lis dans 1 Corinthiens 11, 7 que la femme est la gloire de l'homme. Pourquoi ils tapent dessus alors ? Je lis aussi qu'une femme de valeur, bon, elles n'ont pas toutes de la valeur, c'est comme pour les hommes, hein, il y en a qui n'ont pas, voilà quoi. Mais une femme de valeur a plus de valeur que les perles. Je lis ça dans Proverbe 31, 10 à 33, vous verrez la femme vertueuse, c'est pas rien. Pourquoi ça charme comme ça sur les femmes ? Je lis aussi que dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. 1 Corinthiens 11, 11. On a tous passé par une femme. Je ne veux pas vous citer Bigard, mais il nous dit que la première chose qu'on voit, hein, ben voilà. À moins qu'une femme n'entende et ne comprenne que Jésus est mort à sa place, et à moins qu'elle accepte le pardon de Dieu, elle sera toujours vulnérable entre les mains des machistes religieux de pacotille qui connaissent ce qu'ils ont appris dans leur école biblique nulle, de nul, parce que je peux vous dire, j'en ai fait 3, donc je sais que c'est pas là qu'on apprend les choses. Mes sœurs, vous n'êtes pas coupables, pas plus qu'Adam, parce que Jésus a tout pardonné à ceux qui croient en lui. Voilà, vous croyez ça? Cela dit, je dis ça pourquoi? Parce que dans toutes ces vidéos que j'ai regardées, on voyait entre guillemets, pasteur, super bien habillé, marchant dans leur église comme des paons, avec des chaussures Prada à 3000 euros, devant des femmes qui sont là, alignées, debout, la tête penchée, et c'est, entre guillemets, pasteur, prophètes internationaux, parce qu'ils ont été une fois dans le pays voisin, ou alors intergalactique, ou tout ce que vous voulez, ils adorent les titres. Hein. Ces pasteurs chassent les démons qui sont, soi-disant, dans ces femmes. Ces femmes, elles tombent par terre, elles hurlent, elles gesticulent, voilà. Et... Hey, si vous m'écoutiez un peu, pasteur, essayez de venir faire ça en Europe, dans les églises des Blancs. Vous allez voir à quelle vitesse vous allez dégager et retourner chez vous. On veut pas de ça chez nous, parce que c'est faux. Bien sûr qu'il y a des démons, bien sûr qu'il y a des gens qui sont possédés, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, faut arrêter avec ces cirques de délivrance, de machin. C'est des pauvres femmes un peu, comment dire... dépressives, je ne sais pas ce qu'elles ont, mais enfin bon, c'est pas. Mais il faut arrêter de dire qu'elles ont toutes des démons. Ça m'énerve. Et puis tant pis si ça ne vous plaît pas. Hein. Si vous venez faire ça dans les églises des Blancs ici en France, vous allez vous faire fiche dehors. Personne. Les gens vont rire et ils vont se moquer de vous, ils vont vous foutre dehors. J'ai vu hier. La vidéo d'un pasteur plus malin que les autres encore, c'est ce qu'il leur fait aux femmes, il leur jette des seaux d'eau, mais des seaux, des gros seaux d'eau dans la tronche. Alors évidemment, c'est pour les délivrer. Hein, voilà, je ne sais pas où vous avez cherché ça dans la Bible, enfin bon. Mais pourquoi est-ce que vous vous laissez faire, les sœurs? Pourquoi vous vous laissez faire? La plupart se laissent faire parce qu'elles sont envoûtées par ces pasteurs qui, en fait, ne sont que des sorciers. Parfaitement. Je l'avais dit ça une fois dans une église à Ouagadougou. Pour pas le citer, c'était chez Carambéry. Il y avait 2800 pasteurs. J'étais le principal responsable de l'enseignement. Et j'avais dit, les nouveaux sorciers, c'est vous. Vous avez compris comment manipuler les gens, c'est honteux. Oui, c'est un peu une roule de tronche, mais c'est un peu ça, hein. Frères et sœurs en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Mais, si on vous humilie sans cesse, alors vous finissez par avoir une conscience qui est faussée, c'est-à-dire que vous commencez à penser faux. La conscience du péché originel. Ah, j'adore ça. Moi, je suis pas responsable de ce que Adam et Ève ont fait. Bon, on paye un peu les conséquences. mais attendez. Je vais vous expliquer. Cette conscience du péché originel annule votre foi en Dieu. Cette conscience malmenée par ces machos annule votre foi dans le message de Jésus-Christ. Cela engendre un complexe d'infériorité, ça décourage votre esprit d'initiative, et ça fait en vous, que vous le vouliez ou pas, une colère. Vous savez quoi? C'est exactement ce que veulent ces gourous de pacotille. C'est exactement ce qu'ils veulent pour pouvoir vous dominer. Pourquoi vous pensez qu'il y a des protestants? Les protestants ont protesté contre des gens qui les malmenaient, qui abusaient, qui exagéraient. Ils protestaient. Ils disent, stop, non, je ne vais plus là-bas dedans. Je ne vais plus dans ce machin-là. Je préfère me réunir avec 3-4 frères et sœurs chez moi avec des petits gâteaux et puis une bonne tasse de thé ou de la limonade et louer le Seigneur plutôt que d'aller me faire engueuler par un pasteur qui me dit que je suis possédé, qui me flanque des seaux d'eau dans la tronche. Non, mais ça va pas ou quoi? Ne cherchez pas quelqu'un d'autre que Jésus, votre Créateur. Il vous aime, homme et femme. et ne cherchera jamais à vous faire penser que vous êtes insignifiant. Oh, je les entends d'ici dire, Michel Jonton. J'entends ce qu'ils vont me dire. La Bible dit que c'est la femme qui a péché la première. Et voilà pourquoi elle ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Est-ce que je vous parle d'autorité, là? Oui, peut-être, de l'abus d'autorité, de votre abus d'autorité. Je ne parle pas d'autorité, je parle de dignité, je parle de Jésus qui est venu pour pardonner les frères et les sœurs, les femmes et les hommes. Je vais vous dire une chose, une bonne chose, il faut que quelqu'un vous le dise, ben je vais être celui-là. Si vous avez tellement peur que les femmes prennent autorité sur vous, c'est parce qu'au fond vous êtes des faibles. Un homme fort ne cherchera jamais à épouser une femme faible, bêtement soumise, juste bonne à faire. Des gosses, la cuisine, la lessive. Moi, j'en connaissais une. Ah, je veux pas, c'était à Yaoundé. Pas à Yaoundé, c'était au Bénin, ouais, je sais plus. Elle appelait son mari prophète. Non, mais comment? Prophète. Elle peut pas l'appeler par son nom, non? Prophète. C'est lui qui voulait ça. Un homme fort épousera toujours une femme forte avec qui il peut avoir une relation d'amitié, de communion réciproque. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important au sujet du péché originel. Ce que la Bible appelle la chute d'Adam et Ève, accrochez-vous. Vos ceintures sont-elles accrochées? Oui. Ce que la Bible appelle la chute d'Adam et Ève, c'était voulu par Dieu. Elle a été programmée par Dieu. Comment est-ce que je peux le savoir? Eh bien, parce que la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, que avant la fondation du monde, Dieu avait déjà pourvu au salut des siens. Donc, il savait bien que les siens allaient venir se perdre ici-bas sur cette terre. Avant la fondation du monde, il y a eu, peut-être vous ne le savez même pas, hein, mais je vous le dis, avant la fondation du monde, il y a eu une révolte d'esprits, des esprits qui sont révoltés contre Dieu, qui n'étaient pas d'accord avec son plan, et puis le principal, c'est celui qu'on nomme le diable, Satan, l'adversaire, et puis il y avait toute sa bande de démons, et des démons plus ou moins méchants, et Dieu a décidé, mais avant cette révolte déjà, parce que Dieu sait tout depuis tout le temps, et il a décidé de créer un monde où il enverrait les esprits rebelles, autant que ses esprits à lui, les siens, les bons esprits, les esprits justes, sur terre. Mais pourquoi? Si vous lisiez votre Bible, vous le sauriez. Au revoir. Non, je vais vous l'expliquer. Le but de tout cela était de se débarrasser du diable et de ses démons. Et c'est ce qu'il dit qu'il finira par faire. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est bien fait. C'est bien fait, c'est moi qui rajoute. C'est des esprits qui sont révoltés avant la fondation du monde. Et puis ils sont là maintenant, et puis ils essayent de nous entraîner dans leur chute. Vous savez ce que ça signifie, le mot méditer? Ça signifie réfléchir. Alors réfléchissons. Qu'est-ce que Dieu a dit une fois que Adam et Ève ont chuté? Alors je vous lis, Genèse chapitre 3, verset 22. Le Seigneur sortit de derrière un arbre, se prit la tête entre les mains et dit: « Oh mon Dieu, ils ont fait le mal, comme c'est triste, qu'est-ce que je viens pouvoir faire maintenant ?» Non, c'est pas écrit ça. C'est écrit, Genèse chapitre 3, verset 22. « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. De vivre éternellement dans cet état de connaissance du bien et du mal volé. Dieu n'était pas surpris. Et puis vous avez remarqué, Dieu connaissait le bien et le mal. Comment c'est possible que Dieu connaisse le bien et le mal ? Avant qu'il ait créé toute chose, de toute éternité, Dieu connaissait le bien et le mal. Comment ? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est tout. Qu'est-ce qui manque à Dieu ? Rien. Et il dit, ben voilà, maintenant ils connaissent comme, ils sont comme nous, ils connaissent bien le mal. Alors le diable a proposé à Ève d'avoir ce que Dieu avait, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal, parce que Dieu il leur avait pas donné. Pourquoi il leur avait pas donné ? Il leur a pas donné ça exprès. Il me dira, ah bon, pourquoi ? Oui. Dieu ne voulait pas que Ève et Adam vivent éternellement avec cette saleté de connaissance, mais il voulait leur la donner un jour, mais au temps voulu. Et pourquoi Dieu a monté toute cette histoire ? Eh bien, la chute d'Ève et d'Adam ne pouvait arriver que s'il y avait une loi. Et cette loi, c'est Dieu qui l'a donnée. Tu ne mangeras pas. Et c'est cette loi qui a déclenché tout. Et Dieu le savait. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne sait pas ? Est-ce que Dieu a été surpris ? Est-ce qu'il a dit, « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que je suis surpris !» Non, mais vous prenez Dieu pour qui, là ? Romains, chapitre 4, verset 15. La loi produit quoi ? Le bonheur, la joie, la paix ! Pas du tout. La loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Donc il fallait qu'il y ait une loi pour qu'il y ait une transgression. Dieu a donné une loi pour qu'elle soit transgressée. Vous allez me dire, mais Michel, mais c'est démoniaque. Non, c'est pas démoniaque, c'est divin. C'est vous qui avez rien compris. Ayez l'humilité de comprendre que vous n'avez pas compris. Et apprenez. Alors les machos, vous n'avez pas à accabler ni Ève ni Adam par vos jugements. Ève et Adam, dans leur passé éternel, en tant qu'esprit juste, ont été prédestinés pour accomplir cette étape qui, d'un côté, est une chute, et de l'autre, la première étape vers notre élévation. Parce que Dieu est tout. Il a toujours, par exemple, par exemple, il avait encore rien créé, il n'y avait rien, il était seul dans rien, il était là, voilà, et il était sauveur. Ah, mais dis donc, bonsoir, je suis sauveur, mais j'ai rien à sauver. C'est ballot, hein. Et pour qu'il soit sauveur dans la réalité, il fallait des choses ou des gens à sauver. De toute éternité, Dieu était guérisseur, mais il n'y avait pas de malade. Il créa donc, avec notre consentement, avant la fondation du monde, tout ce que vous voyez. Il a créé ce monde où tout se joue. Ça vous met le vertige ? Vous préférez pas savoir, hein ? Mais moi, je vous le dis quand même. Il a créé tout ça pour manifester ce qu'il est, c'est-à-dire tout. Il est tout. En lui, il y avait aussi bien le bien que le mal. Il dit, je connais le bien et le mal. C'est lui qui le dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Réfléchissons, méditons. Par exemple, en vous-même, vous savez que vous êtes gentil. C'est un exemple, hein, c'est pas vrai, vous n'êtes pas gentil. Non, je plaisante. En vous-même, vous savez que vous êtes gentil. Mais tant que vous n'avez pas manifesté de la gentillesse envers un vis-à-vis, votre gentillesse, ça reste un truc abstrait. C'est un concept. Eh bien, il en était de même pour Dieu. Pour que ses attributs divins puissent se manifester, il fallait à Dieu un vis-à-vis. Et il y avait certaines choses en lui, comme il est tout, qui ne lui plaisaient pas. Donc, il a créé un vis-à-vis contraire à lui, c'est-à-dire celui qu'on appelle Satan, c'est-à-dire un adversaire. Il n'est pas votre adversaire, il est l'adversaire de Dieu. Il fallait des pécheurs, il fallait des malades, il fallait tout ce qui existe. Alors, plutôt que de blâmer Ève, nous devrions la louer hautement parce que c'est grâce à elle que nous sommes nés dans le péché, puis que Dieu nous a sauvés pas en venant sous la forme de Jésus-Christ. On va lire Hébreux chapitre 12, verset 22. Hébreux 12, verset 22. Vous vous êtes approché, quand vous vous êtes converti, hein, je vous rappelle, je vous ai prêché là-dessus il n'y a pas longtemps. Vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Vous vous êtes approché, pas vous, vous allez vous approcher, vous vous êtes approché, en esprit vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, vous vous êtes approché de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, c'est-à-dire de tous ceux qui ont été prédestinés au salut, comme on a lu dans Éphésiens chapitre 1. Vous vous êtes approché du juge qui est le Dieu juge de tous. Vous êtes approché des esprits des justes parvenus à la perfection. Je vous ai enseigné ça il n'y a pas longtemps. De quoi nous sommes-nous approchés lorsque nous nous sommes convertis? Eh bien, entre autres, si vous avez écouté ce que je dis, des esprits des justes parvenus à la perfection. Mes frères et sœurs, quand nous avons été élus pour être sauvés avant la fondation du monde, selon Éphésiens chapitre 1, nous étions des esprits justes. Nous n'étions pas des esprits qui s'étaient révoltés avec l'adversaire, qui avaient agi dans l'iniquité, qui s'étaient révoltés contre Dieu, nous étions des esprits justes. Voilà. Puis, nous sommes venus ici-bas, et pourquoi? Pour y être perdus. On dit toujours, les gens qui sont sans Jésus sont perdus. Perdus par qui? Par le bon berger qui vient nous chercher, et qui nous trouve, pris dans les ronces du péché, et qui nous dégage de là, et qui nous sauve. Hein? C'est pas ça la vérité? Nous sommes venus en tant qu'esprit juste et nous avons connu le mal. Parce que sur cette terre, il y a la connaissance du bien et du mal. Et voilà, on est venu là, puis on a eu tout ça pour être perdu et pour retrouver finalement notre bon berger. Et puis, à partir du moment où on a retrouvé notre bon berger, on a commencé à comprendre qu'on avait un ennemi commun avec Dieu et on s'est mis à lui tenir tête. À chasser les démons, pas en leur envoyant des seaux d'eau dans la gueule, non. Quelle bêtise. Nous sommes venus ici en tant qu'esprit juste, nous sommes tombés dans le péché, Jésus nous a justifiés, N'est-ce pas écrit ? Pour que nous puissions faire la volonté de Jésus-Christ, et en faisant cela, nos esprits qui étaient déjà des esprits justes avant de venir sur cette terre, ont acquis la perfection. Nous sommes devenus plus que de simples esprits bien planqués au ciel. C'est parce que c'est ce qu'on était, hein. On était vers le Seigneur. C'était chouette, c'était bien. Mais on a eu le courage de dire oui, on va y aller. On va y aller, on va aller vivre toutes ces horreurs. Dieu a dit, tu verras, à 73 ans, tu vas te péter le tendon d'Achille, ça va vraiment être la galère. Je m'en fous, je vais y aller. Tout ça, ça a été fait avec mon consentement, avec votre consentement, vous vous en souvenez pas, mais c'est comme ça, et c'est pas autrement. Avant la fondation du monde, nous existions et nous avons été élus, et ensuite nous avons été envoyés, et nous sommes tombés dans le péché, nous avons été retrouvés par Jésus, et maintenant, eh bien, nous faisons tous nos efforts pour suivre le Seigneur et pour vaincre le diable au nom de Jésus. Par toutes les épreuves que nous subissons ici-bas, nous accumulons un capital de perfection. Je vous rappelle que nous nous sommes approchés des esprits, des justes parvenus à la perfection. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 12, verset 23, 24, pardon. Enfin, plus encore, 23, 24. Donc, quand on arrivera vers le Seigneur, quand on retournera vers le Seigneur, on sera des esprits justes, perfectionnés, on sera encore plus mieux bien qu'on n'était pas avant. Je parle un petit peu façon des Auvergnats, là. Plus mieux bien. Parce qu'on aura vécu quelque chose de fort. Vous êtes en train de vivre des choses fortes. Des maladies, des deuils, des accidents, des guerres, des crimes, des viols, des horreurs. Et vous, enfants de Dieu, vous arrivez à garder la foi. Tout ça, ça accumule pour vous un trésor de perfection. Et quand vous arriverez vers le Seigneur, notre Dieu, quand vous retournerez vers Dieu, votre Seigneur, eh bien, vous serez mieux encore qu'avant. Il y en a qui seront tellement mieux qu'ils deviendront l'épouse de Christ. Chose impensable. Avant, c'était impensable. On était des esprits, voilà, quoi. Mais maintenant, on a vécu quelque chose, hein. Eh, c'est pas rien ce qu'on a vécu. C'est rien ce qu'on a vécu, Dominique. Hein? On peut pas dire que c'est rien, hein. Si tu avais pu choisir... Oh oui, non, mais c'est vrai, tu as choisi. Hein? Ben, c'est bien fait pour toi. Il y a des gens qui disent, ah oui, moi, je n'ai pas choisi d'être qui je suis. Si, tu as choisi. Tu as choisi. Tu as pris ton lot de joie, ton lot de peine, ton lot de souffrance. Tu as choisi tout ça, puis tu es venu sur cette terre pour le manifester, pour le vivre à la plus grande gloire de Dieu. Moi, j'ai choisi une bonne vie. Beaucoup voudraient vivre ce que je vis, mais ne veulent pas payer le prix. Hein. Il y a un prix toujours à payer. Il y a toujours la contrepartie, il y a toujours quelque chose qui vient nous embêter. Vous voudriez avoir, je sais pas, moi, je sais pas, avec Michou, on a perdu un enfant, j'ai attrapé un cancer, des tas d'épreuves, on était trahis, on a failli tout perdre. Mais ça, c'est le prix à payer, et puis alors, qu'on s'en fout. Dieu sait tout cela, et notre enfant, on le retrouvera, on sera tout content, on passera l'éternité avec lui. Qu'est-ce que c'est, 80 ans sur cette terre? Ça nous semble long. Mais en réalité, mes frères et sœurs, ce qu'il nous faut, c'est tenir ferme, sachant que nous sommes venus pour tenir ferme dans la foi. Et que nous retournerons, nous les esprits justifiés, en étant perfectionner en étant encore mieux qu'on est, mieux qu'on était. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Alors, les machos, arrêtez d'accabler Ève et Adam. Et vous les machos, les soi-disant pasteurs, prophètes, bishops et compagnie, arrêtez d'humilier les femmes à cause de votre doctrine de pacotille erronée qui vous sert à vous faire du pognon. Je sais que certains vont pas me croire, je sais que certains vont me lâcher, je m'en fous. Mais j'aimerais quand même qu'ils m'expliquent, ceux qui vont pas me croire, pourquoi Dieu a donné cette loi au jardin, tout en sachant qu'Ève et Adam allaient désobéir, puisque Dieu sait tout. Alors expliquez-moi pourquoi il leur a donné cette loi tout en sachant qu'ils allaient désobéir. Si vous trouvez quelque chose d'intelligent et biblique à me dire, je suis prêt à passer du temps avec vous pour vous écouter. Je suis toujours étonné de voir que les chrétiens croient ça sans y réfléchir, sans méditer, avec tout le reste de ce que la Bible dit, ils croient, voilà. Oh ben c'est, le pasteur a dit, alors voilà, c'est Ève qui a péché la première, donc la femme elle doit être soumise, elle doit mettre un voile sur sa tronche. Ils savent même pas pourquoi. Vous savez que la plupart des femmes ne savent pas pourquoi elles doivent mettre un voile sur la tête quand elles prient. C'est écrit à cause des anges, oui, mais pourquoi? Allez lire Genèse chapitre 6. C'est un signe pour les anges. Le signe que vous appartenez à Jésus et à votre mari. Mais la plupart pensent que c'est... c'est facultatif. Vous pensez ce que vous voulez. Peu importe. Si quelqu'un ne me croit pas, j'ai l'habitude, et puis je vais vous dire aussi autre chose. Vous savez pourquoi j'ai l'habitude qu'on ne me croit pas? Parce que je suis un enfant de Dieu. Et mon père, il a aussi l'habitude qu'on ne le croit pas. Ça ne me rend pas malade. Je ne me rends pas malade au sujet de ce que vous croyez, de ce que vous ne croyez pas, de ce que je dis. La vie des ignorants et la vie des gens de mauvaise foi m'importe peu. Que Dieu vous bénisse, et pour ceux qui ont compris, que Dieu vous aide à relever la tête, à être fier d'avoir décidé avec Dieu d'un commun accord dans votre passé éternel dès avant la fondation du monde, que tout ce plan était un plan parfait. Et que Dieu, dans son amour, a décidé, ça c'est le grand but, de détruire ce qui est mal. Parce que Dieu connaît, dès avant la fondation du monde, il connaissait le bien et le mal, et il avait décidé de se débarrasser du mal. Et pour pouvoir le faire, il a créé un vis-à-vis. Et puis maintenant, c'est plus facile à démolir un vis-à-vis. Hein ? Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui est en train de se passer, et voilà vers quoi on va, vers la destruction du diable, des démons, des faux prophètes, des pasteurs de pacotille, de tous les suppôts de Satan, de tous les mauvais, les méchants, les empêcheurs de tourner en rond, de tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais c'est bien! Vous voudriez, vous, qu'il y ait toute cette racaille au paradis? Mais ça ne serait plus le paradis. Bon débarras. Oh, mais Dieu est tellement bon, il va sauver Satan. Mais j'espère bien que non. J'espère bien que non. Vous trouvez que ça serait bien, vous? Allez, je suppose une chose, après j'arrête. Vous avez 22, 23 ans, vous venez de vous marier. Vous avez un petit bébé qui arrive, vous lui chantez des petites chansons avant de l'endormir, et vous avez mis des petites lumières pour qu'il ne se sente pas isolé si jamais il se réveille, vous l'aimez, vous le dorlotez, puis vous allez vous coucher, puis pendant la nuit, il y a un monsieur qui rentre dans votre maison et avec un grand couteau, il fout 12 coups de couteau dans le ventre de votre bébé. Alors évidemment, vous pleurez, vous êtes triste, vous allez à la police fait son enquête, ils arrêtent le bonhomme. Ok, le bonhomme, il va en prison. Et vous, parce que vous êtes chrétien, vous dites, oh non, quand même, faut pardonner. Non, non, faut le relâcher, faut pas, non, non, c'est pas gentil de mettre ce pauvre monsieur en prison. S'il a fait ça, oh, il devait pas bien dans sa tête, c'est triste. Il faut pas, non, non, faut le relâcher. On en refera un autre de bébé. C'est comme ça que les gens pensent, c'est comme ça que vous pensez. Ben, moi je dis que le diable, il mérite l'enfer. Pas de pitié. Pas seulement le diable, mais ses démons, pas seulement ses démons, mais tous les esprits des injustes qui sont venus sur cette terre pour empêcher le monde de tourner en rond, pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour nous enquiquiner. Ils sont vaincus au nom de Jésus, on a la victoire, des fois c'est même rigolo. Mais moi je veux qu'ils soient punis. Vous allez me dire, mais comment tu es Michel? Ben, je suis comme Dieu. Dieu, il a dit qu'il allait le faire, hein. Il va les punir. Vous allez me dire, oh, mais quand même, prouve-moi que Dieu va les punir. Ben, je vous le lis, puis ce sera la dernière chose que je vais vous lire ce matin. C'est écrit, les morts et les vivants se tenaient devant le trône, c'est Apocalypse chapitre 20. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Nous, on n'est pas là, hein, nous, on est déjà sauvés. Ça, c'est les morts qui sont morts sans Christ. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort, le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu, ce que les gens appellent enfer. Le mot enfer n'est pas dans la Bible. Et verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. C'est qui ce quiconque? Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, les prédicateurs avaient l'habitude de dire, donnez votre vie à Jésus, levez votre main, repentez-vous. Et les gens se repentaient, levaient leurs mains et disaient, et le bon pasteur disait, gloire à Dieu, il y a de la joie dans le ciel pour tout pécheur qui se repent. Et maintenant, un ange a inscrit votre nom dans le livre de vie. Ben, c'est faux. Votre nom, il est inscrit dès avant la fondation du monde. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 1. Pourquoi est-ce qu'ils racontent des histoires aux gens? Parce qu'ils connaissent pas la Bible, c'est tout. Puis ils veulent faire du sentiment. Si votre nom n'a pas été écrit dans le livre de vie dès avant la fondation du monde, eh ben vous serez jeté dans l'étang de feu et c'est pas moi qui vais pleurer. Et vous allez pleurer, vous? Vous allez dire, oh non, il a tué notre bébé, mais c'est... Bon, on peut en faire un autre, on peut se débrouiller autrement, faut avoir de l'amour, faut pardonner. Non! Non! S'il y a une loi, et quand elle est transgressée, s'il n'y a pas de justice, cette loi n'est que de la pacotille. Or, Dieu ne fait pas de la pacotille, et il a prévu que quiconque ne serait pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans l'étang de feu. Il sait, il connaît les noms. C'est pas à nous de juger pour savoir qui va être jeté dans l'étang de feu et qui ne va pas y être. Mais ce qu'il nous faut savoir, nous, c'est est-ce que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur? si est-ce que nous marchons au mieux de ce que nous comprenons des Écritures, est-ce que nous avons de l'amour pour notre prochain, même pour nos ennemis? Est-ce que nous obéissons à Jésus? Ça, c'est personnel. Voilà, c'est tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Et maintenant que j'ai dit ces choses, je pense que pour beaucoup, ça va être beaucoup plus clair le pourquoi tout ce qui existe maintenant sur cette terre. Amen. Au revoir.